Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir Eli Cohen. Eli Cohen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris sur votre temps pour nous rejoindre sur notre antenne. Vous avez fait paraître donc chez Fayard un ouvrage qui a été très remarqué, Penser la crise, un ouvrage extrêmement volumineux, 415 pages pour 22 euros. Et bravo donc pour cette contribution. Alors, la crise a fait couler beaucoup d'encre sur ses causes, sur ses conséquences, sur l'éventualité d'une sortie de crise qui, à chaque soubresaut des marchés, est un peu plus reportée. Et nous avons eu une illustration récente sur laquelle nous reviendrons avec cette fameuse balade irlandaise et la fragilité de l'euro, de l'Europe, etc. Ce que vous dites en introduction de votre ouvrage, je crois, donne le ton général de votre contribution. Ce livre n'est pas un récit de plus de la crise, pas davantage un catalogue des solutions pour en sortir, et encore moins un essai prophétique sur le monde d'après ou la refondation du capitalisme. Cet ambitieux ouvrage nous invite à penser, c'est ce que dit votre éditeur, une crise qui a été annoncée, mais qui est restée impensée. Alors, nous allons revenir sur ce point. Avant, peut-être pour nos auditeurs qui n'auraient pas en mémoire votre prestigieux parcours, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et à la Fondation nationale des sciences politiques. Vous êtes un auteur à succès et vous avez notamment publié « La tentation hexagonale » en 1996, « L'ordre économique mondial » en 2001 et « Le nouvel âge du capitalisme » en 2005. Tous parus d'ailleurs chez le même éditeur, chez Fayard. Je crois me souvenir que vous êtes membre peut-être des économistes.
Je suis membre du Conseil d'analyse économique.
Voilà, membre du Conseil d'économie. Voilà, parfait. Voilà, je crois que l'essentiel est dit. Et je voudrais, avant de vous poser la première question, vous lire. Ça donnera à nos auditeurs le plaisir de connaître votre style, mais en plus de comprendre le ton général. En restituant la séquence, c'est à la page 14, la séquence des faits des débats restés en suspens. Il devient alors possible de s'interroger sur les racines historiques de la crise et de la myopie collective des analystes. Pourquoi les multiples alertes de la décennie passée n'ont permis ni d'anticiper la crise totale de 2007-2010, ni d'en prévenir les effets les plus graves ? Et je saute, pourtant toutes ces leçons ont été oubliées et nul économiste ne tentera de faire la théorie de ces dérèglements. Alors, cette crise a été impensée. C'est-à-dire ?
Oui, ce qui est très frappant, c'est quand on regarde ce qui a été publié en 2005-2006 par les économistes, on trouve à peu près tous les ingrédients qui auraient pu permettre de comprendre la crise à venir. Et pourtant, personne n'a été capable de produire la synthèse. Je rappelle ce qu'on lisait en 2005-2006. Premièrement, que notre économie mondiale souffrait de déséquilibres globaux qui n'étaient pas soutenables dans la durée, qu'on ne pouvait pas avoir durablement des pays massivement excédentaires en balance courante et des pays massivement déficitaires, qu'on ne pouvait pas avoir des pays qui accumulaient des réserves considérables et des pays qui empruntaient systématiquement. Et qu'en plus, ces déséquilibres globaux ne trouvaient pas de voie de règlement, puisque les parités entre la monnaie chinoise et la monnaie américaine ne pouvaient pas varier puisqu'ils étaient accrochés, puisque les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis ne montaient pas parce que les Chinois prêtaient systématiquement aux États-Unis. Bref, on savait qu'il y avait des dérèglements, on savait qu'ils ne se résorbaient pas. Et donc, on a plutôt produit des théories qui essayaient d'expliquer ce qu'on ne s'expliquait pas, comme par exemple le fait que les États-Unis et la Chine étaient dans une même zone monétaire, qu'on était dans un Bretton Woods numéro 2.
La fameuse Chine-Amérique.
Voilà, exactement. Ce qui était absurde, puisqu'on l'a bien vu, les États-Unis et la Chine ont des intérêts différents. Donc, première analyse, première explication, la théorie des déséquilibres globaux. Deuxième analyse qui était faite, c'est que les banques centrales, en étant très laxistes, en matière monétaire, en intervenant massivement chaque fois qu'il y avait le moindre dérèglement économique et qu'il y avait le moindre risque de récession, ont créé des bulles de liquidité qui se sont développées considérablement, et notamment des bulles du crédit. On savait qu'il y avait des bulles du crédit, et on savait même qu'il y avait des bulles de crédit immobilier. Et j'avais annoncé, moi, dans mon livre précédent, que la prochaine crise serait une crise de l'immobilier américain. Autre thèse qui a été développée en 2005-2006, c'est que le développement de la finance, notamment avec la dynamique de l'innovation financière, était resté largement non contrôlé, peu régulé. Et en particulier, on savait qu'aux États-Unis, il s'était développé une finance fantôme qui avait fini par représenter les deux tiers de la finance américaine. On savait également qu'il y avait des trous majeurs dans la régulation financière aux États-Unis, en Europe, etc. Et enfin, on savait que lorsque des problèmes étaient identifiés, il y avait une tendance des autorités politiques à intervenir dans les processus financiers pour empêcher finalement de traiter les questions. Et on avait même eu l'expérience dans la décennie précédente de la crise de l'Internet, de la crise de LTCM. On avait vu ce que avait donné le développement sans limite des hedge funds, etc. Et pourtant, la crise va nous surprendre. Et tous ceux qui vous disent qu'ils avaient prédit la crise, vous mentent, parce que personne n'a prédit la crise. Je pense notamment à Nouriel Roubini, qui s'est créé une gloire en disant qu'il avait prévu la crise. En fait, il ne l'avait pas prévu.
Non, personne ne l'avait prévu.
Non, quand vous regardez ce qu'il écrivait en 2006, il dit, il annonce la crise immobilière américaine, mais il n'était pas le seul. Michel Aglietta, moi-même, nous étions de très nombreux à l'avoir annoncé.
Il y avait des signes quand même avant.
Il y avait des signes très importants. Écoutez, ça faisait 20 ans que ça montait tout le temps, ça ne pouvait pas continuer à monter au ciel. Donc, nous savions qu'il allait y avoir une crise immobilière et nous savions que ça allait avoir un impact sur l'économie réelle. Les débats qu'il y avait à l'époque, c'était est-ce que ça allait se traduire par un impact sur la consommation américaine, avec une baisse de la consommation et une montée de l'épargne ? Est-ce que ça allait se traduire sur le taux de change ? La thèse de Roubini, c'est que le dollar allait s'effondrer. Vous voyez, comme on ne pouvait pas plus se tromper, si vous voulez.
Oui.
Et pourtant, lorsque la crise est arrivée, elle nous a massivement surpris, et notamment pour plusieurs choses. On était habitué, par exemple, à des crises qui frappaient une catégorie d'actifs. Mais on pensait que les actifs, les différentes catégories d'actifs,
c'était des compartiments
représentant différentes catégories de risques entre lesquelles on pouvait arbitrer. C'est ce qui avait donné lieu d'ailleurs à la théorie du portefeuille, qui permettait d'optimiser un portefeuille en fonction des profils de risque. Là, on a vu qu'à partir du moment où la crise naît de l'immobilier et qui a été en fait une crise de la titrisation et qui en fait a été une crise des produits financiers structurés, on a découvert que toutes les catégories d'actifs avaient été rapidement touchées. Et on a découvert des phénomènes très surprenants, comme par exemple l'assèchement brutal de certains marchés et la disparition de prix, puisqu'il y avait, face à des offres, plus de demandes du tout. Donc ça, ça a été un premier élément. Deuxième élément qui a frappé par sa violence, c'est la rapidité avec laquelle cette crise, qui était au départ une crise d'un segment limité de la finance américaine, a contaminé non seulement l'ensemble de la chaîne financière, mais tous les pays. L'une des premières victimes de la crise des subprimes, c'était une banque allemande, l'IKB.
Des banques régionales allemandes. C'était incroyable.
Donc, on a découvert à cette occasion-là, si vous voulez, que beaucoup d'investisseurs européens en particulier, cherchant un petit peu de rentabilité de plus que l'obligation d'État classique, étaient allés acheter des produits structurés qu'ils ne comprenaient absolument pas. D'où le mécanisme de contagion. Même chose, violence de la réaction et de la contagion économique. La crise a démarré aux États-Unis, il y a eu un ralentissement net, on l'a vu notamment dans l'automobile qui était un secteur lié au crédit, mais très rapidement, la Chine aussi a été atteinte, alors qu'auparavant, on avait parlé du découplage des BRICS, etc. Donc, si vous voulez, la rapidité de la diffusion dans tous les compartiments d'actifs quasi simultanés, la disparition du marché, la contamination de l'économie réelle et la contamination rapide même des émergents, c'est un phénomène d'une violence qui n'avait pas été anticipée du tout.
Alors, donc, une crise annoncée mais impensée. Et vous dites donc une triple défaillance, ce que vous développez très largement dans un de vos chapitres, le cinquième chapitre. Donc, qu'est-ce que, pour vous, quels sont les points sur lesquels il vous paraît nécessaire de continuer à travailler? C'est les points sur lesquels on n'a pas encore beaucoup, beaucoup avancé.
D'abord, il y a la défaillance théorique, si vous voulez. Il est quand même très étonnant de découvrir que les économistes qui font des modèles macroéconomiques d'équilibre global n'introduisent pas la contrainte financière ou n'introduisaient pas jusqu'il y a peu la contrainte financière. Et il est assez surprenant de découvrir rétrospectivement que l'hypothèse fondamentale des théoriciens financiers, c'est l'hypothèse d'efficacité informationnelle des marchés. Quand vous y réfléchissez, ces deux grands modèles théoriques, l'un dans l'économie réelle et l'autre dans l'économie financière, se sont révélés dramatiquement insuffisants pour comprendre la crise actuelle. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il y a eu des économistes minoritaires qui introduisaient la contrainte de crédit dans des modèles d'équilibre. C'était notamment l'économiste Ben Bernanke qui s'est retrouvé après patron de la Banque centrale américaine. Donc, il y a eu, d'autre part, d'autres économistes, un économiste d'origine indienne qui s'appelle Raghuram Rajan, qui avait bien vu les effets macroéconomiques de l'innovation financière et des dérèglements financiers. Mais aucun n'avait été capable de donner l'image...
L'assemblage, en quelque sorte.
L'assemblage global. Alors, ce que cette crise a révélé en plus, c'est qu'on avait très, très mal théorisé les phénomènes de liquidité et les phénomènes d'évaporation de la liquidité. Or ça, on a bien vu qu'à l'occasion de cette crise, des entreprises qui paraissaient correctement capitalisées, qui paraissaient avoir un portefeuille d'activités diversifiées, pouvaient être frappées aussi brutalement que d'autres entreprises qui étaient moins organisées, moins bien gérées, à cause de ce phénomène d'évaporation de la liquidité. Et donc, ce que je dis dans ce livre en particulier, c'est qu'on ne peut pas ne pas tirer cet enseignement majeur qui est qu'il faut penser sérieusement les phénomènes de liquidité, les phénomènes d'évaporation de liquidité et les phénomènes de collapsus de marché avec disparition de phénomènes de prix. Donc, j'indique qu'en matière théorique, il y a cette articulation à penser, à mieux penser entre la macroéconomie et la théorie financière. Et ça, ça donne un chantier pour l'avenir. Si vous voulez, tout ce qui est... On a beaucoup fonctionné dans des silos verticaux de connaissances. Or, la crise a remis en cause...
transversale.
Voilà, la crise est transversale et elle a remis en cause beaucoup de nos modèles élaborés dans ces cadres de silos théoriques.
Au cœur de vos réflexions, c'est ce que vous êtes en train de dire, il y a des nouveaux risques qui sont apparus en quelque sorte. Mais les modèles d'appréciation des risques se sont révélés très prétentieux puisque finalement, ils n'ont pas vu venir aucun des signes noirs. Et la logique de l'économie des extrêmes a bien démontré qu'elle n'était en aucun moment appréhendée par ces modèles. Alors, est-ce que vous pensez que actuellement, on a avancé largement sur cette remise en cause, sur un nouveau paradigme, en quelque sorte, de la finance et de la maîtrise des risques.
Non, je ne crois pas qu'on ait véritablement progressé parce que, si vous voulez, on reste prisonnier de modèles. Notamment, vous évoquiez le problème de l'évaluation du risque et notamment de l'évaluation du risque immobilier et de ce qui a conduit à pricer les différents produits structurés à base de subprime ou à base de crédit immobilier ou autre.
Oui, c'est le problème. Et surtout aussi la survenance d'événements
tout à fait
imprévisibles.
Oui,
le fameux signe noir.
Mais justement, le problème, si vous voulez, c'est que vous ne pouvez faire de l'évaluation du risque que sur la base d'historique.
C'est ça.
Or, dans le domaine de l'immobilier, ce qu'on a découvert, ça paraît absolument invraisemblable. Mais aux États-Unis, les historiques détaillés sur les évolutions du marché immobilier avaient en général à peu près 20 ans. Or, les 20 ans qu'on avait, c'était 20 ans de croissance continue.
Oui, donc si sur lequel le modèle n'était pas bon.
Sur lequel le modèle n'était pas bon. Mais ça, si vous voulez, on le découvre ex post. Oui. Et lorsque vous avez de toute manière une crise qui est une crise de type centenaire, puisque la crise qu'on a connue, c'est la plus importante depuis 80 ans à peu près. Donc de toute manière, les modèles et les bases statistiques disponibles ne permettaient pas de faire ce type de modélisation. Alors, est-ce que... on est devenu plus expert depuis que cette crise est arrivée. Je suis frappé de constater que les Chinois, qui à bien des égards ont évité les bêtises que nous avions faites, sont en train maintenant de les faire.
Donc, et, ça et, nous rassure.
Voilà, c'est-à-dire qu'on est en train de découvrir des phénomènes de subprime en Chine actuellement et la formation d'une bulle immobilière qui conduit les banques à vouloir sortir les crédits immobiliers, à les titriser pour étendre les bases de création de crédit. Et au fond, on voit que l'expérience ne sert à rien. Chaque pays, chaque système doit faire sa propre expérience en passant par le même type d'erreur.
Payer le prix.
Il faut payer le prix soi-même pour véritablement apprendre la leçon. Donc je ne crois pas, et ça c'est une remarque assez générale, que nous ayons tiré les enseignements de cette crise. Nous ne ferons pas les mêmes erreurs, mais nous en ferons de nouvelles et nous avons déjà commencé à en faire de nouvelles. Regardez par exemple le développement de nouveaux marchés spéculatifs sur les commodités, sur les matières premières, alimentaires, minérales, etc. Cet appétit, cette soif à la fois d'innovation financière et de découverte de nouveaux terrains de spéculation fait qu'on est conduit à reproduire les mêmes erreurs sur des terrains nouveaux.
C'est incroyablement humain d'oublier assez rapidement les drames qu'on a traversés. Alors, vous donnez donc un certain nombre de clés de lecture complémentaires en interrogeant l'histoire économique du dernier quart de siècle et en évaluant les scénarios de sortie de crise. Alors voilà, on y est toujours. La sortie de crise, c'est quand ? C'est quand le bonheur ?
Ah, la sortie de crise recule au fur et à mesure que nous, que nous réfléchissons au problème. Pourquoi ? Ben, si vous voulez, il y a eu une première phase de la crise qui a été la crise financière aiguë, qui, si j'ose dire, a atteint son acmé avec la faillite de Lehman. Et là, face à la réaction terrifiée des gouvernants et des banques centrales qui craignaient la survenue d'une crise de 29, les autorités publiques ont remarquablement réagi. Aussi bien les G20, les banques centrales que les gouvernements nationaux ont dit qu'il faut absolument éviter une crise de type 29. Et donc les moyens ont été mis.
Ouais, vite travers, et fort. Quoi,
vite et fort. Trois messages essentiels ont été émis. Il ne faut absolument pas accepter l'effondrement du système financier. Donc il faut le soutenir. Et c'est la responsabilité des banques centrales et des États. Il faut absolument empêcher l'effondrement des économies. Il faut des plans de relance au besoin, en créant des déficits, parce qu'il est nécessaire d'éviter. Il ne faut pas croire au mythe de la purge salutaire, etc. Lorsque une industrie automobile disparaît, elle disparaît véritablement. Et donc, avant de la reconstruire, il faut du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, il ne faut pas laisser le système économique s'effondrer. Et troisième élément, il faut absolument éviter la tentation protectionniste. Et ces trois messages envoyés par les premiers G20 ont été remarquablement efficaces. Donc, on a évité la Grande Dépression et on a connu une récession qui a été très importante en 2009, avec des baisses moyennes de PIB de 4 à 5 % dans les pays développés.
C'est énorme. Ouais.
Donc, ça a été une correction très sévère qui, elle-même, est l'expression d'effondrement de l'activité industrielle, de ralentissement brutal du commerce international. Mais on en est sorti également. Le rebond économique a été violent. Et donc, à partir du moment où il y a eu ce rebond économique, les gens pressés ont dit « mais ça y est, c'est la sortie de crise ». C'était totalement illusoire. Pourquoi ? Comme je l'indiquais dans mon livre, parce que en essayant de résoudre la première crise, on a créé les conditions de la suivante. Et les conditions suivantes, c'est la crise des dettes souveraines. Alors, elle est arrivée un peu plus tôt que prévu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce risque de défaut grec qui est apparu brutalement à la fin 2009, qui n'avait pas été anticipé. Il faut dire que les Grecs nous ont annoncé du jour au lendemain que leur déficit était deux fois plus important que ce qu'ils nous avaient dit jusqu'à présent. Et donc, les investisseurs ont commencé à regarder de plus près ce qu'était le risque souverain dans la zone euro et ils ont découvert que la Grèce n'était pas seule. Et donc, du coup, nous avons été obligés d'anticiper le retrait des mesures de soutien à cause de cette exigence de défense des dettes souveraines. Donc, nous sommes rentrés dans la crise des dettes souveraines avec une obligation de retour plus rapide que prévu à l'équilibre des finances publiques, ce qui a un effet de ralentissement économique, alors même que nous commencions à redémarrer.
On a encore besoin de...
Alors, pour certains pays, ce n'est pas trop grave. Disons la France et l'Allemagne. Pour d'autres pays, c'est une catastrophe parce que lorsque vous devez, comme en Grèce ou en Irlande ou au Portugal, faire face à une montée de vos déficits alors que votre produit intérieur brut baisse. Et quand en plus, on vous demande de prendre des mesures d'austérité qui aggravent la déflation chez vous et que votre dette continue à monter, vous êtes dans la spirale de la debt deflation, comme on dit, de la déflation de la dette, qui en fait vous étrangle progressivement. Et vous avez là l'explication de la troisième crise que nous connaissons actuellement, qui est la crise des changes avec au cœur du dispositif l'euro. Et avec la volatilité qu'on constate sur les parités et sur l'évolution rapide des taux de change dans les différents pays. Et donc, tant qu'on maîtrise le phénomène, l'économie réelle peut retrouver son souffle, mais on ne peut pas exclure des phénomènes de retour brutal. Et ça, c'est toute la question du développement actuel de la crise de l'euro. Où
oui,
nous mène-t-elle ?
Justement, donc vous faites une parfaite transition avec les questions d'actualité sur lesquelles je voulais vous amener, puisqu'on a le plaisir de vous avoir avec nous. Donc, est-ce que cette crise de l'euro, enfin de l'Europe, à partir donc de cette Europe à double vitesse en quelque sorte, et avec des leaders qui eux-mêmes sont à double vitesse, est-ce qu'elle vous inquiète profondément ou est-ce que enfin, le scénario le pire, la disparition de l'euro, celui-là, vous ne l'envisagez pas ?
Écoutez, je suis inquiet parce que ce que je constate, justement, sur la base de mes travaux sur la crise financière, c'est que beaucoup des erreurs qui ont été faites en 2007 et 2008 dans le traitement de la crise financière aux États-Unis sont en train d'être faites dans le traitement de la crise en Europe. Je suis très frappé de constater que la crise grecque, qui au départ était un phénomène limité...
Oui,
qui
c'est combien du PIB ?
2,5% du PIB de la zone euro, donc c'est rien du tout. Ouais. On aurait pu traiter ça assez rapidement. Au contraire, on a traîné. On a voulu faire un exemple, on a voulu développer une logique punitive et ça n'a fait que développer la crise qui est passée de la Grèce aux pays périphériques. Je remarque ensuite que lorsque nous avons créé ce fameux plan de sauvetage de 750 milliards d'euros, on aurait pu dire « c'est formidable, l'Europe se réveille, se donne les moyens ». Eh bien, on l'a tout de suite accompagné de mesures qui ont créé la suspicion
le doute
en disant par exemple qu'il fallait avoir des sanctions automatiques, un pacte de stabilité révisé et puis surtout… C'est la dernière nouvelle qui avait été lancée au fameux sommet de Deauville, qui est à mes yeux une aberration absolue. On a dit qu'à l'avenir, il pouvait y avoir des défauts organisés sur dette souveraine. Et au moment, au plus fort de la crise irlandaise, envoyer ce type de message, c'est calamiteux. Et je vois même dans la littérature de certains de mes collègues allemands, l'idée qu'il faut faire un exemple pour que ne se développe pas l'aléa moral. En gros, si les prêteurs sont assurés qu'ils seront sauvés à chaque fois par les États, ils recommenceront et ils auront des comportements dangereux. Et que donc, il était vital dès maintenant de dire comment on allait sortir du dispositif actuel en 2013. Donc, si vous voulez, je me dis, cette idée-là, c'est ce qui a abouti à Lehman.
Tout à fait.
Bon, donc est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse un défaut brutal d'un des pays de la zone euro pour commencer à réaliser ? J'espère qu'on va éviter ça. Mais je suis inquiet également parce que le plan irlandais est une catastrophe absolue. Non seulement ça n'a réglé aucun problème, mais en plus, un pays qui connaît une déflation majeure, une décroissance économique, lui imposer un prêt à près de 5,5%.
Oui, c'est-à-dire au moins 200 points de base au-dessus du marché, en gros,
voilà,
au moins.
Voilà, exactement. C'est-à-dire les mêmes conditions qu'il avait juste avant la crise, alors même qu'il est en décroissance et qu'il est depuis 3 ans en décroissance, qu'il a un taux de chômage de 14%. Un économiste américain a dit « ça ressemble aux réparations allemandes, ça ».
Oui, vous voyez, on voit ce que ça a entraîné
ensuite. Ce que ça a entraîné par la suite. Donc, j'espère qu'on va se ressaisir. Et le facteur d'optimisme que je vois malgré tout dans la crise actuelle, c'est que de manière hésitante, avec du retard, malgré tout, on fait ce qu'il faut. Et c'est ça quand même la bonne nouvelle. Non seulement on a mis en place ce fonds de 750 milliards pour venir en aide aux pays en difficulté, mais le patron de la Banque centrale allemande a dit que s'il était nécessaire d'aller au-delà, eh bien il faudrait aller au-delà. Donc on sait que ce fonds ne suffirait pas à traiter un éventuel cas espagnol. On sait qu'on peut aller plus loin, premièrement. Deuxièmement, vous avez vu que la Banque centrale intervient de plus en plus pour monétiser de la dette souveraine, ce qui était absolument hétérodoxe. Et M. Trichet va parler cet après-midi, peut-être.
Va-t-elle
dire quelque chose là-dessus ? Donc, c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, c'est que en regimbant, on accepte quand même une forme de tutelle budgétaire des autorités européennes, parce qu'à partir du moment où on prend des engagements, la Commission européenne nous dit ce qu'elle pense des engagements qu'on prend. Vous avez vu, par exemple, que cette semaine, la Commission a dit qu'elle ne croyait pas beaucoup au scénario budgétaire français pour la réduction des déficits. Et du coup, le gouvernement français a réagi en disant qu'il tenait à ses objectifs et qu'il ferait le nécessaire. Et ça, c'est très important, parce que donc, progressivement, nous sommes conduits à prendre au sérieux nos engagements et à nous engager véritablement sur nos engagements, ce que nous n'avons pas fait au cours des 10 dernières années. Peut-être que nous franchirons un pas supplémentaire d'une manière ou d'une autre avec une forme de mutualisation de la dette au niveau européen. Donc, on est en train d'apprendre difficilement que le coût de la solidarité est réel et que par rapport aux risques dramatiques à la fois économiques, financiers et je dirais même géopolitiques d'un éclatement de la zone euro, eh bien, il faut faire des efforts à la fois au niveau national et au niveau européen. Et à l'épreuve de la crise, dans l'urgence, on prend quand même des décisions qui vont dans le bon sens.
D'accord. Dans la douleur, mais parce qu'il n'y a pas de patron, sans doute.
Il n'y a pas de patron, ou plus exactement, il y a un patron malgré lui. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que l'Allemagne n'a pas envie de jouer le rôle d'une puissance hégémonique. Ils sont très centrés sur leurs propres problèmes. Ouais. Ils aspirent à une prospérité bien ordonnée. Ils ne veulent pas jouer la grande puissance, contrairement à nous qui n'avons pas les moyens de la grande puissance.
Qui
essayons de le faire. Donc, c'est à reculons qu'ils assument leur responsabilité et leur leadership. Mais malgré tout, ils l'assument. C'est quand même eux qui prennent les principales initiatives.
Mais ça, c'est très mauvais pour la communication vis-à-vis des marchés. Les marchés n'aiment pas ça. Mais enfin, bon. Et finalement, sur la durée, peut-être qu'ils finiront par comprendre que les bonnes options sont prises, même avec un peu de retard. Alors voilà, bon, je crois qu'on a fait un grand tour d'horizon. Je voulais une nouvelle fois vous remercier pour votre venue à Canal Academy. C'était donc vos convictions. Je rappelle donc la parution de votre remarquable ouvrage « Penser la crise » chez Fayard, un ouvrage de plus de 400 pages pour 22 euros. Merci à vous, Élie Cohen.
Merci.
C'était un grand plaisir de vous recevoir.
Merci.